RCF.
Le temps de le dire, Antoine Bélier.
Bonjour à tous. Parmi les faits d'actualité marquants de la semaine, nous allons bien évidemment évoquer la réforme des retraites dont un contenu plus précis a été détaillé mercredi au CESE par le Premier ministre. Ce dernier, dans une interview sur TF1, s'est dit ferme sur le principe d'un système de retraite universel, sans être toutefois fermé à toute discussion avec les syndicats. Les syndicats, justement, quelle que soit leur tendance, qui n'ont pas vraiment été convaincus par les annonces d'Édouard Philippe, ils appellent à renforcer la mobilisation en organisant de nouvelles actions ces prochains jours. Dans l'actualité internationale, nous nous arrêterons sur deux scrutins. Le premier concerne l'Algérie. Sur fond de contestation sociale et citoyenne, le pays a voté pour élire son nouveau président. Mais l'ère post-Bouteflika est loin d'être arrivée. Et puis au Royaume-Uni, c'était jour de vote hier également. C'est Boris Johnson qui tire son épingle du jeu. Il a les coudées franches désormais pour mettre en place le Brexit. Et puis nous terminerons cette émission, comme chaque semaine, par les coups de cœur ou les coups de gueule. Ce sera donc en fin d'émission.
Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
Avec deux invités ce matin, François Hevet, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous êtes rédacteur en chef de la revue Études, qui parle entre autres dans son numéro du mois de décembre de fécondité ou encore de virilité, j'ai noté cela.
Oui, effectivement, il y a un rapprochement intéressant, en particulier virilité, c'est l'article de Mariette Darigrand qui propose de décrire viril, l'adjectif avec un E à la fin, non pas pour le féminiser, mais parce que de fait c'est comme habile. Pourquoi est-ce qu'on enlève habile avec un E à la fin, est-ce qu'il est masculin, féminin, et viril peut-être aussi bien masculin que féminin.
Et donc fécondité.
Voilà, vous pourrez lire la suite dans la revue Études de décembre.
Fécondité, c'est lié à quoi ?
La fécondité, alors c'est l'article de Marion Muller-Collard qui réfléchit sur la notion de fécondité dans la Bible. Lié à la question, c'est l'éternel débat autour de la famille, débat qu'on a développé depuis quelques années, et qui montre que finalement dans la Bible, ce qui importe, c'est la fécondité, pas seulement biologique, mais aussi spirituelle, que ça passe par la famille, mais aussi par d'autres canaux.
Alors je ne sais pas si vous êtes en train, ou vous l'avez peut-être déjà terminé, ce nouveau numéro de la revue Études, Monique Beaujard, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes doctorante en théologie, chargée de cours à l'ICP. C'est un numéro qui va vous intéresser peut-être ?
Oui, certainement. Mais comme j'étais dans d'autres choses, j'ai pas encore terminé la lecture du numéro, mais ça ne saurait tarder.
Alors, pour réagir à chacun des sujets que nous allons évoquer, vous pouvez bien sûr nous écrire le temps de le dire @rcf.fr ou appeler Catherine au standard qui me relaiera vos messages.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
C'est depuis le palais d'Iéna, siège du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qu'Édouard Philippe a détaillé le contenu de la future réforme des retraites. Celle-ci concentre la colère d'un certain nombre de salariés depuis plusieurs jours à travers grèves et manifestations. Le temps du système universel de retraite est venu, a déclaré le Premier ministre, confirmant l'abandon des 42 régimes spéciaux existants et que ce système se fera par points. Alors, c'est un peu complexe, hein, ce système des retraites et cette réforme, mais essayons d'en savoir plus et de clarifier les choses. Commençons par ce système par points. En quoi consiste-t-il ? Est-ce que le Premier ministre, selon vous, a clarifié les choses sur la valeur du point ? Il dit ceci, nous nous engageons donc à ce que la valeur du point ne soit pas fixée à la sauvette. Nous demanderons aux partenaires sociaux de fixer sa valeur et son évolution. Monique Beaujard, éclairez-nous.
Je pense qu'il, c'est vrai que le système est complexe, mais il peut pas être plus complexe qu'il y existe déjà. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite ne sait pas ce qu'il va toucher après. Donc c'est un peu, on est dans l'expectative de savoir après, selon les différents régimes ou selon les différentes caisses qui vous versent d'ailleurs différentes sommes à différents moments du mois. Donc le système n'est déjà pas clair au départ, il faut le dire. Donc je pense qu'il peut le clarifier. Après, en fait, il a dit pour cette valeur du point que ça serait inscrit dans la loi. Et qu'en fait, après, ça sera indexé non pas sur l'évolution des prix, mais sur l'évolution des salaires.
C'est-à-dire ?
Donc, c'est quand même très intéressant.
Ça veut dire quoi ? Moi, j'y comprends rien.
les prix, c'est simplement l'inflation.
D'accord.
Et les salaires peuvent évoluer autrement. Alors, il peut y avoir une évolution de salaire qui est juste une indexation sur l'inflation, comme il peut y avoir une évolution de salaire, parce que l'économie ne tourne bien et qu'on peut...
Donc ce sera forcément positif ?
Ça, c'est, je veux dire, on ne peut pas savoir ça. Mmh. Mais si vous voulez, mais bon, on va y revenir parce que c'est complexe. Moi, j'y vais sur la pointe des pieds, là, parce que ça fait 44 ans que je vis en France.
Oui.
Et je me sens 99,9% du temps parfaitement française. Et il y a des rares moments où, du coup, je ne le suis plus, où je ne me sens plus, parce que je ne comprends pas. Et par exemple, il y a deux points, là, dans cette situation où je ne comprends pas le français. C'est d'abord le rapport à l'État et l'occultation de l'économie dans tout ce débat. Le rapport à l'État. On manifeste contre l'État. Je sais bien que c'est l'État qui mène la réforme des retraites. Il n'y a que le gouvernement qui peut impulser ça. Mais on dit que l'État doit payer. Mais l'État n'a pas d'argent. Ce n'est pas l'État qui paye. C'est les impôts. Donc c'est vous et moi. L'État, c'est nous. Et parfois, j'ai l'impression que les Français restent dans l'idée « l'État, c'est moi », comme si le président de la République, c'était l'État.
Vous pensez que les Français se déresponsabilisent ?
Non, ils ont une idée de l'État où ils ne voient pas que l'État, c'est nous. Mmh. C'est nos impôts. Donc les grévistes sont en train de nous dire bah, « écoutez, nous, on a des régimes d'exception et on trouve normal que vous, vous financez le déficit des régimes d'exception. » Parce que ces régimes d'exception, il faut savoir que à 70 ou 75% sont couverts par les cotisations et le reste est complété par les impôts. Et ça, c'est complètement occulté. On fait comme si l'État avait une baguette magique, pouvait payer et que c'était normal qu'il paye.
Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier. Il y a toujours eu des négociations entre syndicats et pouvoir public.
Mais ça, c'est un autre point. Je veux dire, les syndicats, là, ils protestent, ils bloquent tout. La négociation est encore à venir. Alors, qu'on fasse une grève 1, 2, 3 jours pour bien montrer on n'est pas d'accord, on veut autre chose, etc., pour essayer de positionner les forces avant toute négociation, je veux bien. La négociation est encore à venir.
Alors, si vous le voulez bien, on parlera dans le deuxième sujet de toutes ces questions de négociation et du lien entre syndicats et puis État. J'aimerais revenir au contenu même de la réforme, même si les choses sont liées, bien évidemment, François Hevé. Est-ce que ça vous a surpris ce qui a été dit par le Premier ministre où on s'attendait plus ou moins aux grandes lignes de cette réforme ?
Alors, moi, je me sens pas extrêmement compétent sur la question complexe, Monique l'a bien rappelé, des retraites. Bon, je suis peut-être, alors c'est peut-être un peu égoïste, mais moins concerné personnellement par cette question-là. Mais j'ai le sentiment que il n'y a pas beaucoup de surprises dans les annonces par rapport à ce qui était envisagé avant. Des choses intéressantes, enfin, Monique les a rappelées. Avec effectivement cette affaire, alors on anticipe un peu, mais sur le rôle de l'État, je crois qu'on pourrait revenir sur ce point que Monique soulignait à l'instant, une particularité un peu française, de tout attendre de l'État dans ce genre de négociations. Et aussi la faiblesse relative des syndicats dans cette question-là.
Alors on va y revenir. C'est pas le sujet.
Sur le contenu.
Monique Bojard.
Il y a quand même des avancées très importantes qui sont passés comme ça, qu'on souligne pas.
Le fait
qu'il y a donc un minimum 1000 euros pour tout le monde.
C'est-à-dire alors aujourd'hui, pour tout le monde, pour ceux qui ont cotisé quand même.
Oui. Mais je veux dire, les agriculteurs aujourd'hui, souvent ils ne l'ont pas. Un certain nombre de commerçants ou d'artisans n'ont même pas ces 1000 euros. C'est quand même un progrès que, au moins, vous aimez dire que vivre avec 1000 euros, c'est peu de choses et c'est difficile. Mais ce minimum n'est pas acquis pour le moment. Donc il va l'être. C'est quand même quelque chose d'extrêmement positif. Mais autre chose aussi. Aujourd'hui, pour les gens qui n'ont pas de carrière complète, qui n'ont pas tous les trimestres, il faut aujourd'hui travailler jusqu'à 67 ans, sinon pour ne pas avoir la décote. Hein? Et beaucoup de femmes sont notamment dans cette situation parce que souvent elles ont interrompu à un moment donné leur carrière pour
élever leurs enfants.
Et ça aussi, maintenant, 64 ans qui va être cet âge pivot, donc elles n'auront plus besoin de travailler jusqu'à 67 ans. Ça fait quand même 3 ans à un âge où on peut éventuellement être fatigué. C'est quand même des choses très positives. Et puis, ça sera plus lisible. Et puis, surtout, il reste, encore une fois, la question économique sur laquelle les syndicats font l'impasse. Il faut revenir à un équilibre.
Oui, mais ça, c'est un peu tabou.
Mais pourquoi c'est tabou? C'est comme si l'économie n'existait pas. C'était déjà au moment de la crise des Gilets jaunes, on râlait aussi contre l'État, et comme si l'argent n'était pas d'abord produit dans l'économie. comme si c'était pas les entreprises qui produisent la richesse aussi à un moment donné.
En tout cas, la CFDT est en colère hein, sur cette annonce de l'âge pivot à 64 ans. Le Premier ministre là a brisé un tabou.
L'âge de 64 ans, c'était l'âge à laquelle on partait à la retraite en 1980, donc c'est pas si vieux que ça. Alors on peut espérer partir toujours plus tôt et on pouvait peut-être espérer qu'un jour on part tous à la retraite à 40 ans, je ne sais pas, on s'ennuierait peut-être, mais enfin bon bref, ça c'est autre chose.
Je
pense qu'on peut plus faire d'autres choses, mais d'en faire un tabou, on peut dire ok, mais à ce moment-là, si on veut quand même arriver à l'équilibre, si on dit ok, on sanctuarise l'âge, ben, ça veut dire que il faut ou augmenter la cotisation, ou quand il faut retrouver un équilibre. Quand vous avez dans votre budget personnel un déficit structurel tous les mois, vous n'allez pas non plus dire à vos voisins, ben, faut venir m'aider parce que moi j'y arrive pas et moi j'ai besoin de temps. Je veux dire, à ce moment-là, on prend des mesures. Donc c'est ou l'âge, ou c'est les cotisations, ou c'est augmenter les impôts encore. Mais je veux dire, est-ce que vraiment
ou changer le système?
Oui, c'est ce qu'il fait.
Ou changer le système, mais je pensais à quelque chose de plus global. Changer le système néolibéral et capitalistique, mais ça c'est une autre question.
Oui, ben justement, j'ai l'impression qu'il y a tous ces débats sont entremêlés, c'est-à-dire sentiment que nous vivons de toute façon, on sait bien, au-dessus de nos moyens, globalement. Et on fait comme si l'État était un réservoir inépuisable de réserves. Alors c'est vrai l'État peut continuer à emprunter aussi, mais enfin c'est pas très sain. Et la situation de l'économie est telle que on.
Mais qui crée de la richesse?
C'est l'entreprise, évidemment. C'est l'entreprise.
Mais c'est pas l'État.
Oui, bien sûr.
Ce sont les travailleurs.
Oui.
Bien sûr.
Oui, les entreprises, au sens ceux qui travaillent, en effet. Et avec la grève, on empêche les gens de travailler et on crée quand même des pertes considérables pour beaucoup d'entreprises.
Alors, effectivement, il y a la fin des régimes spéciaux. Ça, c'est l'objectif du gouvernement. Pourtant, j'ai plus que l'impression, en entendant le Premier ministre, que certains particularismes seront honorés.
Oui, parce qu'il y a tout ce qui est compte de pénibilité qui reste encore déterminé. Alors, il est certain que, je veux dire, de même que les footballeurs ne peuvent pas faire carrière jusqu'à 65 ans, de même, il y a d'autres métiers qu'on ne peut pas exercer jusqu'à 65 ans. Mais je pense que cette réforme oblige toutes les entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, à réfléchir à cela. Parce que si globalement on doit peut-être quand même travailler un peu plus longtemps, parce que dans d'autres pays européens, l'âge de la retraite a déjà été repoussé à 67 ans pour tout le monde, hein. Ça veut dire qu'il faut réfléchir aussi à qu'il y a peut-être des fonctions qui sont mieux occupées par les plus jeunes. Et alors, comment peut-on impliquer des personnes, je dirais, au-delà de 50 ans, toujours dans un circuit économique, mais en ne faisant peut-être plus la même chose, en n'ayant peut-être plus le même rythme?
Parce que l'inclusion des seniors, comme on dit, c'est quand même un chantier qui est ouvert aujourd'hui, François Vé.
De fait, la question de la pénibilité est difficile à évaluer parce que il y a une dimension très subjective. Je pense qu'il y a quand même une tendance à, dans certaines entreprises ou certains services, à demander davantage aux salariés, genre en termes d'horaire. C'est ce que disent, par exemple, des conducteurs de la SNCF, de dire on n'a plus des machines à vapeur à faire fonctionner, mais on a des horaires extrêmement difficiles. C'est très difficile d'arriver à évaluer objectivement cette affaire de pénibilité. Ça demande vraiment un accord, un débat et une solidarité globale qui, dans nos sociétés, devient problématique, le sentiment. C'est-à-dire que chacun a le sentiment que... Elle a une situation de plus en plus difficile, pour différentes raisons, donc il a des droits, etc., dans son domaine, que les autres ont des avantages, que lui-même aimerait en bénéficier. Et donc, comment arriver à recréer de la solidarité? Je crois que c'est un enjeu très difficile, me semble, dans la société actuelle. On l'a bien vu autour de Gilets jaunes. Hein. Chacun s'estimant lésé par rapport aux voisins.
Alors, le risque, effectivement, ça a été pointé par beaucoup de politologues, c'est la fracture, hein, la fracture de la société. C'est-à-dire que la société qui se fragmente entre différents groupes qui revendiquent pas tout à fait la même chose et qui s'opposent les uns les autres. Monique Bojard.
Oui, et je pense que... qui n'en déplaise, ces régimes exceptionnels avec un départ à la retraite à 52 ou 55 ans, autant, oui, prendre en compte la pénibilité, autant prendre en compte le fait que les gens travaillent de nuit et peut-être faire en sorte que, par exemple, à partir de 50 ou 52 ans, on ne travaille plus de nuit ou on n'a pas ces décalages d'horaire, des choses comme ça, pour rendre les choses, en fait, vivables et supportables pour tout le monde. Mais quand l'espérance de vie est à 80 et quelques années, vous pouvez pas dire à tout le monde, enfin, qu'une partie de la population s'arrête à 52 ans.
Pour intervenir en direct, le temps de le dire, @rcf.fr ou le 04 72 38 20 23.
Après avoir parlé du contenu de la réforme telle que le gouvernement la souhaite, évoquons les réactions des syndicats, quelle que soit leur tendance, même si des nuances bien sûr existent, les réactions sont vives. Le gouvernement s'est moqué du monde, selon le secrétaire général de la CGT Philippe Martinez. Le discours d'Édouard Philippe ne peut que confirmer la nécessité de renforcer la mobilisation, a réagi Force ouvrière. Quant au leader de la CFDT, Laurent Berger, il estime qu'avec l'âge d'équilibre, on en a parlé, à 64 ans, la ligne rouge est franchie. C'est donc dans un climat d'opposition renforcée que grève et mobilisation se poursuivent avant une troisième journée de manifestation dans toute la France prévue mardi 17 décembre. Le gouvernement, et je le disais en introduction de cette émission, est ferme sur le principe, mais pas fermé. Ça veut dire qu'il y a une marge de manœuvre qui existe pour une sortie de crise, François Hevé ?
Oui, alors c'est difficile de faire la part des choses, me semble-t-il, quand on est simplement spectateur des débats, entre ce qui relève des contenus précis sur tel ou tel point, de ce qui relève de manœuvres politiques. On a le sentiment que la CFDT avait plutôt une position de collaboration à l'égard du gouvernement, au moins au niveau des instances dirigeantes. Il est possible, il est fort probable que la base de la CFDT était beaucoup plus dure par rapport à cela.
Jouer un système universel, en tout cas.
Oui, alors, tout à fait. Donc, je veux dire, sans entrer dans les détails des contenus, mais au moins sur la position générale par rapport, disons, à la collaboration avec le gouvernement. Il semble que la base était moins ouverte à cela. Peut-être que la direction craint que la base se radicalise et se rapproche de la CGT, qui par principe a une position d'opposition. C'est pas une surprise, hein, CGT ou FO. Qui est une sorte de, peut-être, de signal politique de la direction à l'égard de sa base. Ah, bah, écoutez, non, on n'est pas des collabos. Voilà. Alors, quitte ensuite, en sous-main, négocier. Enfin, c'est ça qu'il faudrait être dans le secret des, mais quand même, on a quand même le sentiment d'un malaise social qu'on avait déjà senti au moment des Gilets jaunes, d'un malaise plus global et qui fait que, Les points concrets de contestation sont, je ne dis pas des prétextes, c'est peut-être un peu excessif, mais c'est un petit peu comme l'augmentation de la taxe carbone pour les gilets jaunes. C'est un symbole d'un malaise plus global.
Oui, mais comme nous l'apprenait un sondage il y a quelques jours, effectivement, la majorité des Français est favorable à une réforme, mais est circonspecte quant à ce gouvernement actuel pour porter cette réforme. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de paradoxe. On veut bien, effectivement, on pense que c'est nécessaire de réformer, mais on ne fait pas confiance au gouvernement actuel pour le faire.
En fait, c'est ce qu'on constate, qu'il y a un manque de confiance dans ce gouvernement, mais dans les institutions en général. Je ne sais pas s'il y aurait davantage confiance dans un autre gouvernement. C'est un peu ça le problème. Si on ne fait plus du tout confiance aux institutions, parce que bon, ce n'est pas que le gouvernement tout seul là encore. Hein, c'est pas, le projet de loi va passer au gouvernement en janvier, sera présenté au Conseil des ministres en janvier et sera discuté au Parlement, puisque justement, ça implique aussi les impôts. Donc, ça sera aussi discuté quand même au Parlement en février. Et puis, le Premier ministre l'a dit, si les patronats syndicats viennent avec une proposition pour tenir l'équilibre, hein, qu'ils négocient entre eux, il est preneur s'ils ont une autre solution. Et c'est ça quelque chose, quand je suis sur le point où je dis que je ne comprends pas, je veux dire, les syndicats en France ne jouent pas ce rôle de négociateur. Contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays, où d'ailleurs les syndicats négocient beaucoup plus durement qu'en France. Ici, on reste dans l'opposition. Alors que ce dialogue social, il existe d'ailleurs au niveau européen, où patronat et syndicats peuvent aussi négocier des pans entiers de législation sociale. Bon, ça ne marche pas très bien au niveau européen, enfin, pour d'autres raisons. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais il y a dans d'autres pays, ça se fait, je veux dire. Patronat et syndicats se mettent d'accord et le gouvernement vient entériner. Donc, il ouvre cette porte, Édouard Philippe, mais on voit que ce n'est pas dans les habitudes. Et du coup, je trouve que c'est facile de rester dans l'opposition et de ne pas chercher une solution. Quitte à négocier très durement, point, par profession, ce qui... je veux dire, bon, les enseignants ont leurs soucis, etc. Donc, il y a à faire au niveau de la négociation. Et pour moi, la place des syndicats est là, en négociant point par point. Mais cette opposition, qui en plus quand même pénalise tout le monde, pour moi, le gouvernement là est dans son rôle en défendant l'intérêt général. Et les syndicats, je regrette de le dire, semblent défendre des intérêts très catégoriels.
Oui, mais c'est nécessaire qu'il y ait, enfin nécessaire en tout cas, oui, c'est d'une certaine façon nécessaire qu'il y ait des désagréments. Ça fait partie des luttes sociales.
Ah oui, justement, mais je ne vois pas où ils négocient.
Oui, François, moi, je distinguerais peut-être deux choses. Bon, je rejoins Monique sur le... Ça, c'est peut-être le côté français, un peu idéologique, d'opposition binaire, etc. Bon, c'est pas nouveau d'opposition systématique au gouvernement, à l'État. Bon, on lui demande plein de choses et puis on est contre. Mais aussi, je pense que la manière de procéder, du moins, d'après ce que je peux lire à droite ou à gauche, la manière de procéder de ce gouvernement... qui a certainement écouté beaucoup de gens, mais beaucoup ont le sentiment qu'il n'y a pas eu vraiment de débat. Il y a un côté, c'est peut-être un petit peu brutal de dire ça comme ça, mais il y a un côté technocratique dans le fonctionnement du gouvernement, ce qui n'est pas absolument nouveau, mais quand même peut-être plus affirmé, au moins dans l'expression, dans la manière de faire, qui avec des gens très très intelligents, très remarquables, etc., mais qui a du mal à entrer dans un vrai débat. Pour moi, un exemple assez caractéristique et beaucoup plus large que la question des retraites, dans ce grand débat national à la suite des Gilets jaunes, ça a commencé par des discours fleuves du président... devant les assemblées. Ça n'a pas été un vrai débat. Or, il y a de plus en plus une aspiration de la part de la population à entrer en débat. Alors, c'est vrai que c'est des affaires complexes. C'est pas simple hein, de s'approprier des questions très techniques, très complexes, etc. Mais prendre en compte ce désir de débat... je sais pas... C'est pas simple parce que c'est à la fois très bien technique. Il y a beaucoup d'enjeux par derrière, des mondialisations, etc. Mais je crois que symboliquement, il y a une manière de faire qui a.
Et on doit apprendre à débattre. Ça me donne l'occasion de signaler que l'excellente revue Projet, votre revue amie, hein, puisque c'est les jésuites aussi qui en sont les organisateurs. Mmh. La revue Projet fait son dernier numéro justement sur ce thème, débattre sans se battre. On en parlera d'ailleurs dans cette émission lundi. Effectivement, il y a quelque chose peut-être à distinguer. Distinguer le conflit de la violence parce que un vrai débat suppose d'une certaine façon le conflit, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une forme d'agressivité ou de violence. Et est-ce qu'il ne faudrait pas réapprendre justement à débattre, y compris assumer le conflit, Monique Bojard? Et c'est ce qui manque aujourd'hui, on a l'impression, en France.
Oui, enfin, c'est vrai que c'est toujours difficile partout, mais on est tout à fait dans cette situation-là. On voit monter des violences un petit peu partout dans la vie de tous les jours. On en a déjà eu l'occasion d'en parler ici, hein. Des agriculteurs, des enseignants, des policiers.
Mais aujourd'hui, on a l'impression que le débat ne peut se faire sans violence.
Oui, c'est ça. Et que donc les gens, souvent on dit que la violence, ça arrive quand les gens n'arrivent plus à verbaliser ce qu'ils ressentent. Donc en fait, on a certainement à remettre des mots, M-O-T-S, hein, sur les mots M-A-U-X. Et on a fait accepter que ben voilà qu'il y a des différences, qu'on n'est pas d'accord et qu'on doit s'écouter les uns les autres, mais aussi que donc on ne peut pas tout obtenir. Je veux dire que qu'il n'y a pas de baguette magique dans ce monde. Et je trouve que c'est d'autant plus inquiétant que aujourd'hui en France cette tension sociale se fait sentir sur les retraites, mais toute la conversion écologique va demander d'autres sacrifices, ou d'autres gens vont être parfois pénalisés, en tout cas vont subir des inconvénients pour un bien futur. Et donc, oui, il est urgent à apprendre à débattre, à s'écouter les uns les autres et de ne pas être tout de suite dans une violence parce que l'autre n'est pas d'accord avec moi.
En tout cas, c'est vrai qu'on en a entendu parler un certain nombre de fois, et notamment on peut le voir dans les titres de la presse en ce moment, c'est la bataille de l'opinion. Ça, c'est le grand mot maintenant, c'est-à-dire qu'il faut gagner l'opinion. Le gouvernement essaye de gagner l'assentiment de l'opinion.
Mais l'opinion, elle est divisée, justement. Il n'y a pas une opinion en France, me semble-t-il.
Mais est-ce que vous pensez que si les désagréments dans les transports se poursuivent, justement, le gouvernement va réussir par ce fait-là à gagner à cette réforme l'opinion?
Ça, c'est un pari dangereux. Hein. On l'a bien vu en 1995, l'opinion était restée, la grève a duré très longtemps et l'opinion était plutôt favorable, me semble-t-il.
Oui, tout à fait, mais peut-être que les choses ont changé justement aujourd'hui.
Ah, peut-être, oui, mais c'est un pari dangereux. Je pense que c'est un pari dangereux de s'appuyer là-dessus. Pour revenir un petit peu en arrière, je dirais il y a un paradoxe que j'appellerais catholique dans la manière de faire en France. C'est-à-dire à la fois de tout attendre de l'État et de demander de la participation. Il y a une sorte de contradiction qu'on a aussi dans l'Église. C'est-à-dire qu'on a dans l'Église, on attend tout du pape et en même temps, on voudrait parler, on voudrait s'exprimer. C'est peut-être ça qui explique un peu la manière de faire en France où on attend tout de l'État, on voudrait participer et en même temps, on attend tout de l'État qui résolve les problèmes.
Monique Bojard.
À ce moment-là, je n'avais pas pensé à ça, mais enfin, la remarque de François est intéressante, en tout cas, ce qui voudrait dire que si on discute davantage dans les pays du Nord, c'est l'influence du protestantisme, mais alors là...
Ça donnerait lieu à un autre débat, peut-être une autre émission. On se retrouve dans une petite minute sur RCF, on parlera d'autres sujets, de scrutins assez différents, bien sûr, l'élection présidentielle en Algérie avec une abstention record, et puis les législatives anticipées au Royaume-Uni avec le Parti conservateur qui remporte de façon assez écrasante l'élection. À tout de suite.
Le temps de le dire revient dans un instant. Placez les évangiles au cœur de notre quotidien. C'est ce que vous propose enfin une bonne nouvelle. Chaque semaine, Béatrice Soltner, avec l'éclairage d'un bibliste, vous propose d'écouter un texte d'évangile et d'en savourer la nouveauté. Enfin une bonne nouvelle, c'est tous les vendredis à 22h.
Trisomie 21, chercher, soigner à tous les âges de la vie.
Je m'appelle Laura, j'ai 23 ans, je suis trisomique. J'aimerais que la recherche avance un peu plus vite. Je veux un traitement pour guérir.
Le directeur de la Fondation Jérôme Lejeune lui répond.
Laura, la recherche avance. Des dizaines de programmes de recherche sont aujourd'hui en cours. Notre objectif, c'est d'offrir des traitements à nos patients à tous les âges de la vie. Et nous trouverons. Aidez la recherche de la Fondation Jérôme Lejeune. Faites un don sur don.fondationlejeune.org.
C'est la Formule Club du vendredi avec mes invités de la semaine, François Heuvet, rédacteur en chef de la revue Études, et Monique Bojard. On poursuit comme promis par l'Algérie. Les Algériens qui étaient appelés hier à voter pour leur futur président, pour celui qui succédera à Abdelaziz Bouteflika, dont le long règne s'est récemment achevé. 6 Algériens sur 10 ne sont pas allés voter jeudi, soit un peu moins de 40% des électeurs inscrit. Cette abstention record est liée au rejet de cette présidentielle perçue comme fantoche par le mouvement populaire de contestation, les 5 candidats étant plus ou moins proches du parti majoritaire, de l'armée ou du clan Bouteflika. Les citoyens engagés dans cette révolte citoyenne appelée le Irak, qui depuis plusieurs mois prend de l'ampleur dans le pays, plaide pour une vraie transition démocratique. Alors, arrêtons-nous sur cette faible participation. Quel enseignement en tirer, Monique Bojard?
C'est exactement ce que vous venez de dire. C'est les gens protestent dans la rue, veulent un vrai changement et se disent qu'avec les candidats qui sont là, qui sont tous issus du Sérail, qui ont tous travaillé à un moment donné ou un autre avec Bouteflika, rien ne changera en profondeur parce que pour le moment, c'est le chef de l'armée, le général Salah, qui tient tout ça et qui donc qui tiendra aussi aussi si c'est un de ceux-là qui est élu, ce sera toujours une présidence tenue par l'armée. Et je trouve que les manifestations en Algérie sont exemplaires justement par leur côté pacifique. Et on souhaiterait mieux pour ce pays. Et je veux dire, quand les gens disent, mais on nous a volé notre indépendance, on veut une vraie indépendance, c'est quand même bientôt 60 ans hein, de leur indépendance.
Et on peut se poser la question, et d'ailleurs il y a un chercheur, Jean-Pierre Filu, qui pose la question dans un récent livre, est-ce que l'indépendance algérienne a eu lieu véritablement, au vu de tout ce qui se passe
actuellement? Alors, il a eu lieu quand même, dans la mesure que...
Mais c'est une question un peu rhétorique, mais...
Mais en fait, il y a une vraie aspiration à une nouvelle étape, vers une vraie démocratie, et faire...
Parce que s'ils sont affranchis de la puissance coloniale, ils s'attendaient peut-être pas, les Algériens, à se voir sous le joug d'un clan comme celui qui est encore au pouvoir aujourd'hui.
Ben, c'est ce qui s'est passé effectivement après l'indépendance. L'OPA finalement sur la politique par le FLN, par l'armée des frontières, Boumédienne, etc. Alors qu'il y avait, une pluralité politique dans les indépendantistes, mais qui a été complètement réduite très vite par, en plus, par justement l'armée des frontières qui était à l'extérieur du pays et qui a éliminé. C'est intéressant de revoir justement, de relire l'histoire immédiatement post-indépendance, qui pour nous, enfin, on a le sentiment de, il y a d'un côté les pieds noirs, les pauvres qui sont partis à toute vitesse, et puis un FLN homogène qui a pris le pouvoir, mais en fait c'était beaucoup plus différencié dans le parmi les indépendantistes, et tout ce qui n'était pas strictement FLN a été écarté. Et donc aujourd'hui, je crois que la population, bon, qui a toléré ça pendant un certain nombre d'années, aimerait justement une vraie pluralité, une vraie démocratie. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que j'ai perçu ça il n'y a pas très longtemps, que l'armée était relativement populaire en Algérie parce qu'elle assurait l'unité nationale. L'Algérie a un sentiment national qui le distingue du Maroc, de la Tunisie et a fortiori des pays plus au sud. Et l'armée était incarnée en quelque sorte cette unité nationale. Donc elle bénéficiait d'une certaine popularité, mais qui est en train de disparaître aujourd'hui. Et donc ce qui est frappant, c'est effectivement, comme vous disiez, la durée de ces manifestations, le caractère pacifique, la ténacité des populations, et des jeunes en particulier, et des femmes, contre le système. Mais pour l'instant, le système résiste encore.
Et alors, j'aimerais quand même qu'on s'arrête sur ce que je disais également, c'est-à-dire sur le fait que cette élection est considérée comme fantoche par beaucoup de citoyens. C'est-à-dire que derrière, effectivement, même si là, un nouveau président sera élu, on sait que l'armée va continuer de tirer les ficelles du pouvoir.
Oui, c'est là où, en fait, on voit que la démocratie, c'est aussi quelque chose qui est long à apprendre, et on le verra tout à l'heure avec la différence avec l'Angleterre, qui a cette très très longue tradition de démocratie parlementaire. Bien évidemment, on a beaucoup de pays en Afrique où, à un moment donné, un clan prend le pouvoir. Donc, la démocratie demande d'instaurer des contre-pouvoirs pour qu'il n'y ait pas une personne qui peut, une personne ou un clan qui peut accaparer le pouvoir. Et ça, c'est long, ce système d'instaurer ce pouvoir, contre-pouvoir, etc., d'avoir des gens... l'Algérie a suffisamment de gens formés, etc. Donc, ça pourrait se faire, mais on voit bien que c'est des choses qui sont longues.
Alors ça vient des citoyens, effectivement, mais est-ce que ça peut se faire aujourd'hui dans l'état actuel des choses s'il n'y a pas de force politique qui transforme ce besoin de démocratie?
Alors j'ai entendu dire quelqu'un qui a dit que le président qui va être élu maintenant, au mieux il peut être un président de transition. Est-ce que parmi ceux qui sont là, est-ce qu'il y en aura quelqu'un qui aurait la volonté d'avancer au moins vers autre chose?
En tout cas, c'était pas le but de l'élection de d'élire un président de transition.
Non, mais dans la rue, à vrai dire, ils voudraient une autre élection si les gens sont pas allés voter, et c'est quand même important, 60% qui n'a pas voté, ça dit quand même quelque chose, hein, d'un vrai refus.
Oui. Ça dit un mouvement qui est pas simplement de la jeunesse éduquée urbaine. J'avais posé la question à une spécialiste spécialiste de l'Algérie. Est-ce que c'est... Nous, évidemment, on voit des reportages sur Alger. Mais qu'est-ce qu'il en est dans la campagne? Mais de fait, ça semble être un mouvement assez large. Peut-être une des difficultés de ce mouvement, et c'est pas propre à l'Algérie, c'est l'absence de leader qui émerge et qui puisse effectivement... je connais pas assez le détail des choses, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas vraiment... C'est un mouvement très large, certes, mais il n'y a pas de figure, enfin, on n'entend pas parler,
il n'y a pas de figure qui émerge,
voilà,
en tant que telle.
Et qui puisse effectivement assurer vraiment la transition. Je pense, alors, c'est évidemment c'est un argument utilisé par le camp d'en face. Je me dis, écoutez, ce serait peut-être très gentil, mais nous, on a des candidats à la présidence, on a des gouvernements potentiels. Vous avez qui? On ne gouverne pas uniquement avec une foule.
Alors, il n'y a pas de leader charismatique, mais ce qui serait intéressant peut-être d'analyser, c'est la présence des femmes dans ces manifestations en Algérie. Les femmes qui, j'allais dire... prennent le pouvoir au sens où elles ont conscience de leurs responsabilités et elles sont souvent leaders dans ces manifestations.
Oui, et on entend, quand on lit un petit peu, comme tout le monde, je n'ai pas l'occasion d'aller en Algérie, donc on regarde à travers la presse et les publications des femmes qui disent, mais enfin, si rien ne bouge, je ne peux qu'envoyer mes enfants faire leurs études à l'étranger. Donc, elles se projettent, en fait, peut-être dans l'avenir pour leurs enfants, déjà, en disant, mais on veut que ça change. Et puis, bon, la position des femmes dans les pays musulmans, c'est vrai que, et ça, ce n'est pas que en Algérie, mais c'est aussi au Maroc, c'est aussi en Tunisie, elles souhaitent aussi un changement pour leur statut. Donc, il y a peut-être une motivation encore plus grande.
Oui, alors, on peut peut-être le noter aussi, il ne semble pas qu'il y ait une connotation, même c'est même clair, il n'y a pas de connotation religieuse claire à cette manifestation.
Non.
Certains la qualifient d'ailleurs avec toute l'ambiguïté autour de ce terme de laïque, François Hervé.
Oui,
même si là, il faut faire attention.
Oui. Non, je pense que là...
Parce que la société est quand même religieuse, la société algérienne.
Et puis, il y a des relais autour des mosquées. Non, ce qui est intéressant, c'est que les courants extrémistes, du type salafiste, n'apparaissent pas dans ces manifestations.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en embuscade.
Présent, oui, mais enfin, d'après ce que j'ai pu entendre de gens plus compétents que moi sur la question, que ce soit vraiment une menace, parce que on peut se poser la question, est-ce que, justement, vu l'absence de leader, de structure dans ces courants d'opposition, est-ce que les structures religieuses très organisées vont pas prendre le pouvoir et en profiter, comme on a pu le voir.
Voir après le printemps arabe dans certains pays.
Voilà, exactement. Mais apparemment, ça semble pas être le cas. Un autre élément aussi qui m'a été signalé l'autre jour, c'est que la jeunesse étudiante, bien sûr, est favorable à la démocratie, etc., mais aimerait bien aussi avoir une bonne situation à l'étranger. C'est-à-dire qu'un certain nombre de jeunes disent, écoutez, la démocratie est très bien, mais en attendant, nous, on aimerait bien avoir du travail, et c'est plutôt à l'étranger qu'on va le trouver. Donc, alors, sauf que ce n'est pas évident d'émigrer, mais ce qui évidemment, peut-être...
Même s'il y a des facilités pour émigrer en France quand on est algérien.
Certes, mais du coup, ça parasite un peu cette aspiration à la démocratie. Enfin,
et en même temps, regardons les choses effectivement en face, et d'ailleurs, je crois que c'est le journal Le Monde qui s'en faisait dernièrement le relais, en recueillant des témoignages de jeunes justement formés, diplômés, qui ne trouvaient pas de travail et qui, s'ils trouvaient du travail, trouvaient un travail qui ne correspondait pas du tout à leurs compétences.
C'est
dramatique.
C'est un des grands problèmes.
La situation des jeunes en Algérie.
Ah oui, oui, oui.
Des jeunes, encore une fois, diplômés et formés.
C'est ça, en fait, qui ont des diplômes, qui sont formés et qui ne peuvent pas trouver travail et qui donc essayent d'aller ailleurs, et ça fait autant de pertes en effet pour faire fonctionner une démocratie dans leur pays, alors que l'Algérie est un pays qui a des richesses encore une fois.
Donc, et ça pose aussi bien sûr la question de la responsabilité de tous ceux qui ont été à la tête de l'Algérie pendant des décennies et qui ont capté finalement, on pourrait le dire comme ça, même si je vais peut-être pas me faire des amis en disant cela, capté les richesses du pays.
En tout cas, ils n'ont pas bénéficié au plus grand nombre, ça c'est certain.
Oui, et puis certains sont en prison. Alors, pour le coup, ce qu'on peut dire aussi, c'est que quand même, un certain nombre de gens qui ont profité du système, que ce soit des patrons d'industrie ou des ministres, etc., maintenant sont en prison. Donc, il y a quand même eu un coup de balai qui a été fait.
Oui, il y a eu un coup de balai qui a été fait, mais hier, avec la manifestation, là aussi, un certain nombre de journalistes et manifestants, pour la première fois, ont été embarqués. Donc le pouvoir se durcit de ce côté-là, oui. En fait. Donc,
alors, on peut aussi noter l'extrême réserve de la France par rapport à ce qui se passe en Algérie. Bien sûr, c'est pour des raisons historiques. La France ne veut pas apparaître, une fois encore, comme l'ex-puissance coloniale qui viendrait mettre son nez dans des affaires qui ne la concerneraient pas.
Je pense que quoi que dise ou quoi que fasse la France, là, oui, elle, je veux dire, son silence est mal interprété. Et si elle dit quelque chose, ça serait mal interprété aussi. C'est une histoire douloureuse qui, me semble-t-il, n'a pas encore été complètement digérée. Et la France a mis quand même, je crois, plus de 30 ans ou près de 40 ans avant d'admettre que ça avait été une guerre. Avant, ce n'était que des événements. Donc, je pense que ce n'est pas encore complètement digéré, en fait. Donc, sa parole reste difficile.
Oui, ça ne peut pas être digéré aussi vite. Oui.
Votre rendez-vous d'actualité du matin, c'est le temps de le dire sur RCF.
Et autre scrutin qui a eu lieu également hier, le vote des législatives anticipées au Royaume-Uni, et Boris Johnson a gagné son pari puisque le Parti conservateur arrive en tête avec une écrasante majorité. Il enregistre 358 sièges à la Chambre des communes, tandis que son concurrent, le Parti des travaillistes, obtient 203 sièges. Désormais, donc, Boris Johnson a les mains libres pour mettre en place le Brexit. Monique Bojard, qu'est-ce qui va se passer concrètement maintenant?
Je pense que d'ici le 31 janvier, en effet, la Grande-Bretagne va sortir de l'Europe. Alors, je pense que pour la Grande-Bretagne, c'est bien qu'il y a une majorité claire dans la Chambre, parce qu'on a vu que ça bloquait tout le temps, ce qui n'était, du coup, le Brexit, ça a duré trop longtemps, et un certain nombre d'Anglais qui étaient a priori contre le Brexit ont fini par dire, mais maintenant, il faut quand même qu'on sorte, parce que sinon, c'est notre souveraineté qui n'est plus respectée, parce qu'on pourrait, ça donnerait l'impression qu'on ne pourrait jamais sortir de l'Union européenne, qui deviendrait du coup un prison, et c'est pas un cage doré, etc. En même temps, moi, personnellement, je regrette que Boris Johnson tire son épingle du jeu, parce que dans la campagne du Brexit, il a quand même affirmé de façon éhontée un certain nombre de choses qui n'étaient pas vrai. Donc, que ce soit quelqu'un qui a joué au poker menteur, là, qui finalement remporte la mise.
Et il s'est vraiment mis en scène hein, lors de la campagne.
Ah oui, mais ça, il est acteur. Ça, c'est
il s'est mis en scène, il a rejoué, je crois, une scène d'un film britannique.
Oui, tout à fait.
Il est allé prêter main forte à des travailleurs.
Oui, mais ça, c'est un showman, comme on dit en anglais. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est une victoire importante, même si c'est pour un nombre beaucoup moins important, du Parti national écossais. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que là où les conservateurs ont gagné, c'est parce qu'ils ont gagné un certain nombre de circonscriptions qui ont été Labour, donc travaillistes, pendant des dizaines d'années, c'est là où les gens étaient en fait en faveur du Brexit.
Notamment dans le nord de l'Angleterre,
oui,
c'est ça
oui,
où
c'est
il
ça.
Y a beaucoup
oui.
de classes.
Alors
de
qu'ils ont
populaires.
Plutôt perdu, par exemple, à certains coins de Londres où les gens étaient contre le Brexit. Bon, ça, ce n'est pas, je veux dire, précisément, on ne peut pas dire tel truc, mais là où les travaillistes ont perdu des sièges, je dirais, historiques, c'est parce que les gens avaient voté pour le Brexit et que donc, en fait, au moins il tient sa promesse, il dit « get Brexit done hein, », on va le faire, ce Brexit.
Alors après, peut-être que Jeremy Corbyn, finalement, sa position, elle n'était pas très très claire, cette position du leader travailliste, effectivement, sur le Brexit et... Là, pour le coup, il a vraiment perdu son pari et on s'attend à un autre leader travailliste dans les semaines à venir.
Ah bah, pour toi, c'est tout autant la défaite de Corbyn, peut-être plus que des travaillistes en tant que tels. Le fait, justement, alors bon, il y a la personnalité de Corbyn qui pose question, bon, la question d'antisémitisme aussi, qui manifestement a joué un rôle significatif. Mais c'est effectivement le fait de ne pas prendre position sur le Brexit. Parce qu'il sentait bien qu'une bonne partie de l'électorat travailliste était favorable au Brexit, qu'une autre partie, au contraire, était résolument contre le Brexit. Du coup, cette non-position lui a nui. Et je pense que les Anglais sont, comme on disait tout à l'heure, très, très démocratiques. C'est-à-dire, le Brexit a été voté par référendum, donc il faut le faire. Même si je suis contre, je reconnais Le résultat du référendum.
Mais justement, l'option de Jeremy Corbyn...
Ça, ça a été aussi une erreur, je pense, des libéraux démocrates qui disent non, nous, si on est élus, voilà. Pas de Brexit. Or, ça, je pense que les
c'était peut-être un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire, si on est élu, on refera un référendum.
Enfin, ça veut dire ils étaient manifestement... Il y avait quand même un petit peu l'idée que on ignore le premier référendum. Ça a été un peu dit par les.
Oui, mais en même temps, le premier référendum, il n'y avait pas eu énormément de votants, et puis la victoire était mince. Et normalement, c'était un référendum consultatif.
Oui, c'est vrai. Mais j'ai entendu des philosophes politiques britanniques dire ça. Ça m'avait effectivement surpris. Le référendum a eu lieu. Nonobstant tout ce qu'on vient de dire, effectivement, sur ces éléments-là, les gens ont voté majoritairement, même si c'est une faible majorité, en faveur du Brexit, il faut respecter ça. Ouais. Voilà, ça c'est effectivement... En France, on aurait tendance à dire, écoutez, oui, bon, c'est consultatif, il n'y a pas eu beaucoup de votes, à limite, ça n'a pas une grande importance. Là cet élément a joué.
En tout cas, il y avait quand même un espoir pour les Remainers de changer la donne, effectivement, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, là, encore une fois... L'écrasante majorité, elle est du côté de Boris Johnson. On ne peut pas le contester.
Oui, mais il y a aussi le système électoral anglais, qu'il faut quand même le rappeler, qui est très particulier, parce que c'est celui qui... C'est à un tour, et c'est celui qui a le plus de voix qui passe. Même si, s'il y a 5 candidats...
Et il remporte la mise.
Oui, il remporte la mise, en fait. Oui. Et d'ailleurs, la patronne des libéraux démocrates, Jo Swinson, a perdu, à quelques voix près, son siège, en fait, au profit du parti indépendantiste écossais. Donc, comme le disent toujours les analystes politiques, mais le disent chaque fois, et pour autant on ne change pas le système, il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas dans le résultat, dans leur circonscription. Mais je pense que les Anglais étaient globalement fatigués de ce Brexit qui a duré, qui a occupé aussi toute l'énergie.
Et qui n'est pas encore fait, hein.
Oui, mais enfin,
maintenant, il devient quand même assez...
Non, mais il a fait un accord. Il a, par rapport à May, l'accord de May, c'est qu'il a changé cette histoire du backstop en Irlande. Il a mis la frontière en mer d'Irlande et donc pas sur la terre pour éviter qu'on crée une nouvelle frontière. Parce que ça,
qu'on remette en cause les accords du Vendredi Saint, oui.
Etc. Tout ça est fragile. Maintenant, bon...
Et d'ailleurs, il l'a dit, Boris Johnson, maintenant, je veux... m'intéresser aux affaires intérieures du Royaume-Uni.
Oui, et en fait, je crois que c'est là aussi une des raisons pour lesquelles Jeremy Corbyn a quand même pas réussi son pari, c'est que lui, dans le parti travailliste, se situait très à gauche. Ce qui fait qu'il n'était pas clair sur le Brexit. Il y avait ce problème d'antisémitisme qui fait qu'en fait, la communauté juive a dit qu'elle ne soutiendrait pas le Labour. Mais en plus, pour ceux qui... Alors, ça plaisait bien sûr à certains, mais je veux dire, pour les travaillistes un peu plus modérés, Corbyn était marqué très à gauche et ça a pu aussi en dissuader. Mais le Brexit a quand même occupé l'essentiel du terrain.
Alors, à quoi va s'atteler maintenant Boris Johnson une fois que le Brexit sera effectif?
Boris Johnson avait par exemple promis qu'une fois le Brexit done, on pouvait mettre 350 millions de pounds toutes les semaines dans le système national de santé qui bat de l'aile. Et beaucoup de gens, que beaucoup de personnes âgées ont voté du coup pour le Brexit parce qu'ils disent, ah oui, quand même, c'est quand même plus important que notre système de santé soit soutenu. Après, on n'en a plus entendu parler. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il a été, je pense, très flou.
Oui,
on ne sait pas. Il a surtout dit qu'il va faire le Brexit. Après, on verra.
François V, sur le plan aussi peut-être, alors la politique intérieure, certes, vous pouvez en dire un mot, et sur la politique extérieure, qu'est-ce que va faire maintenant Boris Johnson? Il va accroître ses liens, il va développer ses liens avec son ami Trump?
Oui, alors ça, c'est pas sûr que ça marche très bien, parce que pas sûr que les États-Unis soient très intéressés par développer des liens avec, enfin, en tout cas Trump, avec l'Angleterre, enfin, avec le.
Je sais pas, Monique Béjart.
Non, en fait, Trump, c'est l'Amérique d'abord. Donc, ce lien privilégié que l'Angleterre a toujours eu avec les États-Unis est certainement affaibli, comme tous les autres liens. Maintenant, la Grande-Bretagne, dès qu'elle sort de l'Union européenne, va devoir renégocier tous les accords commerciaux avec l'ensemble des pays Bon, elle a bien sûr son Commonwealth, où elle a les accords internes, donc le Canada, etc. Oui. Mais elle devra renégocier tous les accords. Les accords avec l'Union européenne, mais ça, bon, c'est prévu dans la négociation, tout ça. Mais avec tous les autres pays du monde, elle doit renégocier des accords commerciaux. Donc oui, il a quand même de quoi faire.
Et quelles conséquences, alors, sur le plan, justement, économique en Angleterre, au Royaume-Uni, il peut y avoir des conséquences désastreuses?
Ah, bah, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie de l'exportation quand même de la Grande-Bretagne pour un certain nombre de produits qui passe vers l'Union européenne et qui du coup va subir des droits de douane. Même chose pour ce qu'ils importent de l'Union européenne. Donc on est plus, ils ne sont plus dans le marché intérieur. C'est ça qui fait différence. Et le marché intérieur, ça veut dire que vous avez pas de droits de douane à l'intérieur de ce marché. Donc ils en sortent, ils vont à nouveau avoir des droits de douane. D'ailleurs, ils interviewaient des entrepreneurs anglais qui disaient, mais du jour au lendemain, mes produits vont être beaucoup plus chers en France ou en Allemagne, et donc je vais subir une concurrence de gens qui peuvent faire la même chose. Raison pour laquelle certains ont déjà mis une filiale en Allemagne, en France, etc. Pour, mais oui, il va y avoir un impact sur l'économie. Et là-dessus, les analystes ne sont pas toujours d'accord, parce que pour les uns, ça va être une catastrophe. Pour les autres, non, c'est un petit choc que la Grande-Bretagne va facilement absorber. En tout cas, à la publication des résultats, le taux de la livre a monté.
Oui, donc affaire à suivre là-dessus. Peut-être un dernier mot sur la négociation qui a eu lieu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne a fait preuve, finalement, de responsabilité, de maturité, selon vous?
Oui, j'ai l'impression, oui. Enfin, là encore, je sais pas.
Elle s'en trouve peut-être pas renforcée,
mais de fait, oui.
Elle a montré sa valeur.
C'est difficile parce que, de fait, il y a une solidarité entre les pays. On peut pas dire à la Grande-Bretagne qu'elle parte et puis on s'en fiche, hein. On est quand même intéressé de garder certains liens commerciaux c'est pas facile, hein. Et puis, il y a beaucoup d'incertitudes.
Et même au-delà des liens commerciaux, personnellement, je regrette que la Grande-Bretagne quitte l'Europe. Ça serait peut-être plus facile pour négocier certaines choses parce que c'était pas un partenaire facile dans la négociation, mais je veux dire, entre la France et l'Allemagne, c'était bien d'avoir un troisième pôle qui était la Grande-Bretagne. Alors, c'est un peu récupéré aujourd'hui par les pays du Nord, Pays-Bas, pays scandinaves, mais ça n'a pas le même poids que l'Angleterre. Je pense que de toute façon, les liens vont certainement continuer sur les questions de défense, même si la Grande-Bretagne ne sera plus dans l'Union européenne, parce que là, une collaboration qui existe et qui est importante.
Il peut y avoir des collaborations indépendamment des gouvernements, ouais. Il peut y avoir des collaborations entre les différentes administrations, différents services qui ont déjà des liens et qui peuvent les garder.
Jusqu'à 10h, prenons le temps de le dire sur RCF.
Vous n'êtes que deux aujourd'hui, donc vous avez du temps. C'est une bonne nouvelle, non, François Hevet et Monique Beaujard, pour exprimer vos coups de cœur, vos coups de gueule, les deux.
Ah, tout.
Tout. Monique.
Alors, du coup, j'ai droit à deux, c'est ça?
Bien sûr, même trois, allez. Je suis gentil.
Je dirais qu'avec tout ça, on oublie qu'il y a aussi la COP25 qui se termine aujourd'hui. Et où, encore une fois, les pays n'avancent pas. On n'annonce aucun accord particulier. Et mercredi, la présidente de la nouvelle Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté le Green Deal, hein, le deal vert européen. Et elle propose de mettre un budget de 1 000 milliards d'euros pour que d'ici 2050, l'Europe devienne le premier continent neutre
en carbone.
Mais voilà, donc il y a une certaine ambition au niveau de la Commission européenne, mais il faut que les États suivent. Et quand on voit qu'à la COP25, ils sont encore en train de négocier, mais que rien n'avance, si les États, à un moment donné, et donc les gouvernements, ne prennent pas à nouveau des mesures très impopulaires, parce que ça va être impopulaire, la mesure qu'il faut prendre pour faire cette transition, hein, on ne va pas y arriver. Et je pense qu'on doit avoir le souci de nos générations futures.
Donc un coup de gueule pour vous ce matin?
Contre les gouvernements qui ne font pas assez au niveau de la transition écologique.
Et un petit coup de cœur pour équilibrer les choses?
Alors, oui, un petit coup de cœur.
Si vous voulez réfléchir, je laisse la parole à François, mais allez-y.
Un petit coup de cœur, c'est que c'est un des adjoints d'Anne Hidalgo, et je crois que c'est un adjoint communiste, qui a eu cette excellente idée qu'on pourrait, pour rendre Paris à nouveau accessible à des gens qui ont des revenus normaux, et pas les très hauts revenus, de dissocier le foncier du bâtiment. Et du coup, ça permettrait d'avoir des logements à 5000 euros le mètre carré au lieu de 10 000 euros le mètre carré. Alors, ils vont mettre ça en place apparemment sur certaines zones qui ont été identifiées. Et on veut faire ça en sorte que la mairie soit propriétaire du foncier et que, notamment la zone des grands voisins, mais aussi d'autres zones. Et si on pouvait rendre, en fait, Paris à nouveau habitable pour tout un chacun, je pense que ce serait une bonne chose.
Ça pourrait être pas mal. Finalement, il vous reste que 50 secondes,
pardon.
Françoise.
Mais en fait, alors,
ça tombe bien ou pas ?
On ne s'est pas concerté avec Monique, mais mon coup de gueule portait précisément sur le peu d'action des grandes puissances par rapport à la COP25, par rapport au réchauffement climatique. Et c'est vrai que c'est frappant de voir que les rapports du GIEC se multiplient et les phénomènes aussi se multiplient. Et pourtant, les grandes puissances agissent de moins en moins. Que ce les petits pays, il y a un consortium de 70 pays qui se sont unis pour agir, mais qui représentent 10% des émissions, c'est pas grand-chose, mais qui sont actifs, et ça ne suffit pas à entraîner les grands. Et ma crainte, c'est qu'on arrive dans des situations de plus en plus divergentes, où chacun pour soi, et ça va exactement à l'encontre de la solidarité nécessaire entre les pays.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci François Hevet, merci Monique Bojard, je remercie également Pierre-Henri Paget qui réalisait cette émission.